France Inter.
Enquête de politique. Chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, l'anarchie et l'écologie, c'est le dernier épisode de notre série.
D'abord, le plaisir de vivre sur Terre. Pouvoir ouvrir les yeux sur un paysage au lieu de les fermer parce qu'une bagnole vous transporte entre deux murs de béton.
C'est une des plus grandes difficultés de notre société de savoir utiliser les techniques que l'on a sans en faire un moyen de création d'un monde dans lequel l'homme est submergé.
Pour cette dernière émission d'enquête de politique sur l'anarchisme, pour l'instant, il y en aura d'autres tellement cet espace politique est vaste et riche, nous allons nous intéresser à un cousinage mal connu, l'écologie et l'anarchie. L'écologie politique, comme on l'a vu dans une précédente émission en décembre dernier, n'oubliez pas les podcasts hein, si vous voulez rattraper votre retard, l'écologie politique donc se structure dans le cadre classique de la compétition électorale et des institutions à partir de 1974 et la candidature de René Dumont à la présidence de la République, 4 ans après, le Club de Rome, sur les dangers de la croissance infinie. Mais une autre branche de l'écologie s'est développée parallèlement, une branche tout aussi politique seulement, qui ne conçoit pas que l'écologie puisse être représentée par un parti politique, trouver sa voie dans la course au pouvoir. Cette écologie-là promeut l'expérience, l'exemple, la contre-culture, l'auto-organisation, par exemple communaliste. C'est une critique du capitalisme, de l'État-nation et du centralisme. Et ces derniers temps, alors que les écologistes des partis classiques brillent au niveau local, surtout dans les grandes villes, mais montrent leur incapacité à gagner des élections nationales, les thèses de l'écologie libertaire gagnent du terrain. Les ZAD, les velléités de bifurcation, la désobéissance civile se multiplient. Et une partie non négligeable de la jeunesse étudiante est aujourd'hui tentée de faire de la politique en dehors de toute idée de prendre le pouvoir. Cette aspiration renaissante n'est pas neuve. Pour en retracer l'histoire, pour en comprendre la philosophie, je suis allé à Bordeaux rencontrer Christophe Chastanet, docteur en sciences politiques, professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste et aussi disciple du philosophe libertaire et écologiste Jacques Ellul. Mais d'abord, nous retrouvons Stéphane Jourdain, qui nous a déjà accompagnés dans les autres épisodes de notre série sur l'anarchie. Stéphane Jourdain, politiste, professeur à l'Université de Versailles et chercheur à Polytechnique. Un nouveau concept, les communs, directement issus de l'anarchie, s'invite depuis quelques années dans la pensée écologiste. Qu'est-ce que vous voyez d'anarchiste ou de libertaire dans ce qui se passe en ce moment, notamment autour de l'écologie ?
Il y a une notion qui s'est beaucoup développée là, depuis une quinzaine, vingtaine d'années. C'est la notion de commun, qui est une notion qui a été réactivée notamment par Elinor Ostrom, qui était prix Nobel d'économie en 2009, qui conçoivent donc cette idée de commun comme des communautés ou des sociétés qui vont coproduire des règles pour gérer des ressources, alors notamment des ressources naturelles, mais pas que, et qui vont l'étendre au travail, à la politique, etc. Donc cette idée d'auto-organisation hein, qui est très importante, avec cette idée que le marché et l'État ne sont pas les institutions qui sont les plus à même de pouvoir régler la crise écologique.
Quand Emmanuel Macron ou le gouvernement dit vouloir essayer de développer des outils comme ça, est-ce que c'est de la récupération ou c'est de l'influence de ces idées qui viennent de l'anarchie qui s'installent dans l'État, même au plus haut niveau de l'État?
Oui, alors souvent il y a
les conventions citoyennes, les idées de tirer au sort des citoyens pour faire des choix qui sont importants.
Très souvent, il y a un côté greenwashing ou commonwashing ou anarchismewashing, je ne sais pas, mais très souvent.
Ça veut dire que c'est influent.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'au moins, ce sont des notions, des idées qui rentrent dans le débat public et qui peuvent avoir un certain pouvoir, en effet, d'influence. Par exemple, quand on parle de démocratie participative, en réalité, il s'agit de démocratie consultative et pas du tout participative. C'est-à-dire que les citoyens, on va les consulter, mais en aucun cas, ils ne vont avoir un pouvoir de décision. C'est ça qui est important dans l'anarchie, c'est de rendre véritablement le pouvoir aux citoyens.
Dans le resurgissement de l'idée de la désobéissance civile, notamment dans la jeunesse, autour des luttes pour l'environnement, vous y voyez une influence, Édouard Jourdain, de l'idée anarchiste ?
Oui, tout à fait, puisque dans le mouvement anarchiste, il y a toujours l'idée de ne pas dissocier la pratique de la théorie. Donc, une des premières pratiques, c'est cette désobéissance civile, précisément. Désobéir à une loi qui paraît injuste et illégitime, oui. Et c'est quelque chose qui va pouvoir même se développer chez d'autres, comme Henri Soros aux États-Unis.
Il y a des espèces d'avatars de l'anarchisme ou de l'idée libertaire. Qu'en est-il en réalité, par exemple, du libertarianisme ? Est-ce que ça fait partie, le libertarianisme qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, est-ce que ça fait partie de la sphère libertaire, Édouard Jourdain?
Si on entend libertaire au sens très large de simplement la critique de l'État, en effet, on peut retrouver un lien. Mais en réalité, ce mouvement dit libertarien, parfois on parle d'anarcho-capitaliste, c'est simplement la critique de l'État, mais avec la sauvegarde de la propriété privée. C'est-à-dire que cette idée que tout doit être privatisé, y compris la justice, la police, l'armée, etc. Donc ça va complètement à l'encontre de l'anarchisme social ou socialiste.
On est à rebours des communs, là.
Complètement.
That is a word that has been stolen.
Voilà un mot qui a été volé.
Murray Bookchin, anarchiste américain, 1921-2006, écologiste, théoricien du communalisme.
Ceux qui à droite se prétendent libertariens sont en fait propriétariens, uniquement préoccupés par leur liberté de propriété. En fait, le mot libertaire a été inventé par Élisée Reclus dans les années 1890 parce que l'anarchie était interdite en France pour cause de terrorisme. Élisée Reclus avait inventé un mot pour remplacer anarchie parce que si vous vous disiez anarchiste, les flics pouvaient vous mettre en prison. Vous ne pouviez pas publier un journal anarchiste. Alors il a inventé le mot libertarien.
Édouard Jourdain, qu'est-ce qu'on appelle l'anarchisme postmoderne ?
Alors, c'est un courant philosophique anarchiste qui a voulu avoir une certaine lecture des philosophes comme Deleuze, Foucault, Derrida, avec cette idée que l'anarchisme classique se serait focalisé sur des gros concepts comme l'État, la propriété. Et eux vont davantage insister sur l'idée qu'il y a des relations de pouvoir qu'on va pouvoir retrouver dans différentes institutions, à l'école, dans la psychiatrie, mais aussi au sein de collectifs, y compris de collectifs anarchistes. On va retrouver des relations de pouvoir inégalitaires, des relations de domination qu'il faut aussi critiquer. Donc avec cette idée qu'il ne suffit pas de critiquer l'État ou il ne suffit pas de critiquer le capitalisme pour imaginer une société émancipée. Ça va s'inscrire dans tout un tas de luttes contre de multiples formes de domination ou de discrimination, raciale, de genre.
Par exemple, tout le débat autour de l'intersectionnalité, oui, fait partie de cet anarchisme postmoderne ?
Oui, en partie, et y compris au sein du mouvement anarchiste. Il y a des débats par rapport à cette notion d'intersectionnalité, avec certains qui vont dire aussi qu'on retrouve, y compris dans l'anarchisme dit classique, cette critique de formes de domination, y compris interindividuelle. Et déjà, Proudhon, d'ailleurs, au milieu du XXe siècle, va critiquer l'idée de raison d'État qu'on va retrouver entre les individus.
Mais par exemple, la question de l'écoféminisme avec Françoise Daubonne, est-ce que vous mettez ça dans l'anarchisme nouvelle manière ? L'idée que l'homme doit se déconstruire, qu'il faut en finir avec la domination masculine, multiséculaire. Est-ce que ça rentre dans une filiation de l'idée anarchiste et libertaire ?
Oui, complètement. Enfin, dans la mesure où il va y avoir cette idée qu'on trouve dans l'anarchisme d'une critique de la domination. Donc la critique du patriarcat va évidemment rentrer dans cette critique.
Madame Daubonne réclame le pouvoir féminin contre les hommes et après, pourquoi faire ? Pour abandonner ce pouvoir, alors quelle utilité qu'elle le prenne et qu'elle le garde, elle veut même pas le garder. À ce moment-là, vraiment...
Absolument pas. Tout pouvoir est mauvais entre les mains de qui que ce soit. Et cela
alors
a été
pourquoi prouvé. Le prendre
pour le détruire, parce qu'on ne peut pas détruire ce qui ne vous appartient pas.
Et après...
La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Il est temps que la planète redevienne verte, et ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir.
Avec cette idée que... Les causes aussi de la domination sont toujours multiples. Il y a le patriarcat, il y a le capitalisme, il y a l'État. Mais la domination ne se réduit pas au patriarcat. Et c'est là où il peut y avoir une différence aussi avec certains féministes qui vont avoir uniquement cette grille de lecture.
Enquête de politique, dernier épisode de notre mois de janvier consacré à l'anarchie. Et comme promis, nous partons à Bordeaux rencontrer Patrick Chastenet. Ce professeur émérite de l'université de Bordeaux 4 a été d'abord l'élève, puis l'ami de Jacques Ellul, philosophe, penseur de l'écologie et de l'anarchisme, protestant pratiquant, né à Bordeaux en 1912 et mort en 1994. Jacques Ellul est lui-même dans la lignée d'un autre Girondin, l'anarchiste Élisée Reclus, contemporain de Proudhon et Bakounine, et qui est considéré comme le père de l'écologie. Patrick Chastenet est un ancien journaliste, notamment pour Le Monde, puis universitaire donc, et il s'apprête à publier « Les racines libertaires de l'écologie politique » aux très bonnes éditions de l'Échappée. Et dans ce livre, Patrick Chastenet évoque 5 penseurs majeurs de ce mouvement, Élisée Reclus, Jacques Ellul, Ivan Illich, dont on a parlé et entendu la voix dans notre émission en décembre sur l'écologie politique, l'Américain Murray Bookchin, que vous venez d'entendre il y a quelques minutes fustigé les libertariens, et Bernard Charbonneau, un autre penseur du Sud-Ouest, beaucoup moins connu, contemporain et ami de Jacques Ellul, que Patrick Chastenet a également rencontré. Nous allons d'ailleurs le découvrir avec lui. Donc, direction Bordeaux sur les terres de Reclus et d'Ellul et de Patrick Chastenet, qui nous reçoit dans son bureau au milieu d'un fatras de livres. Patrick Chastenet, comment l'anarchie rencontre l'écologie?
Je crois que le premier contact, c'est par Élisée Reclus. Parce que au moment où Élisée Reclus est avec Bakounine, Proudhon et Kropotkin, en train de concevoir et puis de mettre en pratique ce qu'on va appeler justement l'anarchisme.
Donc là, on est en 1860-70?
Exactement dans cette période, qui sont des articles, notamment le second qui s'intitule « Du sentiment de la nature ».
Allons au lac des batailles, ramer, nager, nu comme des vers. L'homme devrait autant que possible vivre nu.
Élisée Reclus, lecture.
Absorber sa santé par tous les pores, accoutumer ses yeux à la beauté des formes. Je tiens à reconquérir l'équilibre de ma jeunesse. Équilibre que nous font perdre bottes, cravates, bretelles et chapeaux. Ah, cette sensation rafraîchissante du vent, conjuguée à l'eau, n'a rien d'infernal. Cherchons une barque.
Ce sont deux articles qui sont extrêmement actuels, puisqu'il est question aussi de générations futures. Il est question aussi des hommes qui ont le droit, ou sinon le devoir, de s'emparer du monde, mais qui devraient le faire avec un petit peu plus de délicatesse pour faire en sorte que cette terre ne soit pas pillée.
Il y avait déjà cette idée de la finitude, où le mot n'était pas encore utilisé.
Mais il a l'idée quand même de la limite. Hein. Il a l'idée que l'homme n'est pas là, et il le dit d'ailleurs en ces termes, justement, pour piller, pour saccager. Il parle de barbare et de civilisé, c'est très simple. Le barbare, c'est celui qui s'empare, qui consomme, qui détruit, qui exploite. Le civilisé, c'est justement celui qui va savoir s'arrêter, qui va exploiter la terre, mais je dirais avec modération. Hein. On retrouve bien là l'idée de la limite. Hein. Et bon, celui que moi je considère comme étant vraiment le précurseur en France de l'écologie, et même avant les mouvements environnementalistes, hein, tout ça c'est le début des années 60, c'est Bernard Charbonneau qui reprend ce terme de sentiment de la nature et il intitule un texte qui a une diffusion confidentielle « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire ».
Patrick Chastenet, Bernard Charbonneau, qui c'est exactement? Il n'est pas connu.
Si on peut dire que Ellul est en marge, hein, alors là, Charbonneau, il est en marge de la marge. Et d'une certaine façon, Ellul a un peu éclipsé Charbonneau, hein, même si sa notoriété est extrêmement relative. Et je dirais que c'est vraiment lui hein, qui, avec ce texte, qui est un texte de 1937, eh bien, là, il pose vraiment les bases, hein, c'est-à-dire que son ambition, c'est de faire du sentiment de la nature ce qu'a été la conscience de classe pour le socialisme.
D'abord, le plaisir de vivre sur Terre, de pouvoir ouvrir les yeux sur un paysage au lieu de les fermer parce qu'une bagnole vous transporte entre deux murs de béton.
Bernard Charbonneau, pour France Culture en 1996, quelques mois avant sa mort.
Et puis pour moi, vivre sur Terre, c'était pas de l'ordre de l'esthétique, hein. C'était de l'ordre de l'existence tout entière, c'était me plonger dans une eau qui soit claire et bleue, y pêcher des poissons, planter ma tente dans une forêt où j'imaginais qu'un jour je pourrais bâtir ma maison. Et ça continue aujourd'hui par ma fenêtre. Là, je vois à travers la dentelle des chênes les Pyrénées dans le lointain et je ne peux vivre que si j'ouvre les yeux. Très jeune, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait un décalage entre les religions, les idéologies et ce qui était en train de se réaliser de mon vivant, ce que j'ai appelé parfois la grande mue de l'espèce humaine, une transformation prodigieuse dans tous les domaines de la vie de l'homme sur Terre.
Patrick Chastenec, dites-nous qui, en deux mots, qui est Bernard Charbonneau?
Alors, Charbonneau, c'est quelqu'un qui naît dans un milieu petit bourgeois à Bordeaux, hein. Son père est pharmacien. Bon, c'est un élève indiscipliné, hein, qui a toujours, alors à la fois c'est quelqu'un qui rue dans les brancards, mais qui, même brillantissime si on peut dire, et qui est absolument assoiffé de nature et qui cherche à toujours s'échapper de la ville et qui va avoir de cesse, quand il sera adulte, de s'éloigner des centres urbains. Il va aller dans les Pyrénées, près de Pau, et puis là encore, à chaque fois, il va encore s'éloigner. Donc il va vivre vraiment de façon extrêmement sobre, si on peut dire.
Il est professeur.
Oui, enfin, des professeur. Écoles. Attention. Oui, voilà, c'est ça. Il est ce qu'on appelle à l'époque instituteur, tout simplement. Quand je l'interviewe sur ces questions-là, il me dit « Mais moi, je ne l'ai pas découvert dans les livres. Je l'ai ressenti dans ma chair. » J'ai vu sous mes fenêtres la civilisation de la bagnole. Bon, c'est quelqu'un qui aime le scoutisme, mais sans l'encadrement, c'est-à-dire...
C'est un chrétien ?
Alors, il est sur cette question-là, il est assez paradoxal, parce qu'il est agnostique, mais il se définit comme post-chrétien.
Il garde le message, mais il n'a pas la foi.
Il a quand même baigné un peu dans cette culture. Il a une connaissance des textes qui est absolument phénoménale. Et puis, il va donc s'éloigner. Il va voir aussi cette dégradation.
Mais là, Patrick Chastenet, vous nous décrivez un écologiste, vous ne nous décrivez pas un anarchiste.
Charbonneau, c'est, à la différence d'Ellul, hein, son ami Ellul se revendiquait expressément de l'anarchisme. Hein, pour lui, il le dit alors à de multiples reprises, avec de multiples formulations, un homme de parti, c'est la partie d'un homme. Pour lui, donc, c'est le seul véritable socialisme, c'est le socialisme libertaire. Et il dit quand même, la seule différence qu'il a avec les anarchistes, je dirais, de la Fédé ou de l'ORA, ou... C'est de dire, même si lui, il a plutôt des relations avec les amis de la Fédé, c'est de la Fédération anarchiste, et pas de la Fédération protestante, il y en a eu aussi. C'est de dire que, bon, les hommes étant ce qu'ils sont, la société anarchiste n'est pas de ce monde.
C'est-à-dire que c'est un anarchiste simplement intellectuel, il ne croit pas en l'avenir anarchiste, en une organisation sociale et politique qui serait anarchiste.
Faut jamais perdre de vue que, aussi bien chez Charbonneau que chez Ellul, là-bas, c'est quand même toujours l'individu isolé qui prend conscience d'eux, mais qui va s'associer avec les autres. Ce n'est pas l'unique et sa propriété. Non, ce ne sont pas...
Ce ne sont pas des ermites...
Non. Alors, leur point commun, c'est voter, c'est abdiquer, selon la formule de Reclus. C'est effectivement de se méfier des partis, mais ce n'est pas se retirer dans sa tour d'ivoire et aller se contenter d'écrire des livres.
Hein. Mais quand même, alors, si on passe de Reclus à Ellul, il dit, Ellul, Jacques Ellul, je crois que l'anarchie implique d'abord l'objection de conscience à tout ce que constitue notre société capitaliste ou socialiste dégénérée et impérialiste. Objection à l'impôt, objection à la vaccination, objection à l'école obligatoire. Ça résonne aujourd'hui comme une sorte d'isolationnisme, d'individualisme. Il n'est pas évidemment ce qu'on appelle un libertarien, on y reviendra. Mais il y a quelque chose de... on va pas utiliser non plus le mot séparatisme qui est maintenant connoté, mais voilà, Ellul et la société.
Non, mais tous, ils ont l'idée, alors c'est ce qui d'ailleurs moi me plaît chez eux, le grand soir, faut pas l'attendre. C'est-à-dire que la révolution, elle se fait ici et maintenant, elle se fait à la fois individuellement et elle se fait collectivement. Évidemment, il y a dès maintenant l'idée de créer des contre-sociétés, partout où on peut le faire, qui passent par un certain style de vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça passe par « allez, on sort le drapeau noir ». C'est à la fois maintenant dans sa vie qu'on pose des actes qui sont des actes à la fois anarchistes et écologistes, mais c'est aussi l'idée qu'il y a un idéal à atteindre et qu'on doit s'appuyer sur des libertés qui ont été conquises déjà historiquement et qu'il faut justement les approfondir ou les radicaliser si on voulait parler comme Bookchin.
Anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société, le pouvoir de la société, c'est littéralement anarché, donc refusant le commandement.
Jacques Ellul, ici pour la télévision en 1992.
Toute ma pensée est une pensée anarchiste, même dans l'Église chrétienne, mais je refuse évidemment de faire partie d'une fédération anarchiste parce que ça me paraît contradictoire dans les termes. Un anarchiste, c'est forcément un individu. Ce n'est pas un groupement, et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. C'est toujours par rapport à une réalité politique existante ou sociale existante que l'on récuse ce pouvoir sur l'homme. L'homme doit assumer lui-même sa vie, il n'a pas à obéir à une doctrine quelle qu'elle soit.
Mais regardez, pour prendre une affaire qui nous occupe actuellement, la vaccination, ils sont pour la responsabilité individuelle. Est-ce qu'on peut pas dire que se vacciner ou promouvoir la vaccination, c'est quelque chose qui allierait les deux exigences de Jacques Ellul, c'est-à-dire à la fois une morale personnelle et une préoccupation collective.
Oui, là, je suis très embêté sur la question de la vaccination, parce que, en plus, je ne suis pas sûr, moi, d'être représentatif de beaucoup d'Elluliens qui sont, j'en connais beaucoup, beaucoup, qui sont anti-vaccins. Je ne sais pas, d'ailleurs, si Ellul, c'est très difficile. Il y a eu chez lui, en effet, une méfiance à l'égard de la vaccination pour les animaux.
Il pense vaccination, ouais, agriculture, oui, industrielle. Oui. Voilà,
absolument, mais c'est exactement ça. C'est dans, d'accord, cette démarche-là. Quoi.
Mais vous comprenez qu'en ce moment, ouais, la pensée de personnes comme Jacques Ellul, Murray Bookchin ou Élisée Reclus inspire évidemment beaucoup de zadistes, beaucoup de jeunes qui veulent bifurquer.
Oui,
c'est ce qu'ils expliquent. On le voit notamment à Agro, même à Polytechnique, dans des écoles d'ingénieurs. Et en même temps, ça peut aussi alimenter une certaine forme de complotisme, de méfiance généralisée.
Je crois qu'on est dans une situation assez paradoxale qui nous réclame finalement une action urgente. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que la thématique assez de blabla, des actes, ça peut déboucher sur l'activisme. Et justement, je crois que des gens comme déjà Charbonneau et Ellul étaient conscients qu'il manquait une sorte de doctrine, de structure. Non pas idéologique, parce que une idéologie, ou encore, tout dépend de ce qu'on entend par idéologie, mais
une grille de lecture,
ouais,
peut-être.
Une grille de lecture cohérente.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence. Les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. avec les petites filles et les canards. À l'usine et au supermarché, les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Et c'est normal, c'est le progrès.
La maison près de la fontaine, Nino Ferrer.
France Inter. Enquête de politique.
Enquête de politique, dernier épisode d'Enquête d'anarchie. Tous ces épisodes sont à retrouver déjà en podcast. Réalisation Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Laurent Baudouin. Et c'est l'heure du livre d'Aurélie Marcirot. Bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Alors vous nous présentez aujourd'hui « Noir et vert, anarchie et écologie, une histoire croisée ». On est vraiment dans le thème du jour, aux éditions Cavalier Bleu. C'est sorti il y a 2 ans, en 2020.
Oui, Philippe Pelletier, l'auteur, est professeur de géographie à Lyon 2 et spécialiste d'Élysée Reclus. Il a écrit un ouvrage sur les idées reçues sur le mouvement libertaire et donc ce « Noir et vert ». Il part d'un constat. Aux yeux de militants alternatifs ou altermondialistes, anarchistes et verts ont de nombreux points communs. En revanche, du côté des intellectuels et militants écologistes, on ne le pense pas du tout. Il en résulte une incompréhension chez les écologistes qui se disent libertaires ou chez les anarchistes qui se veulent écologistes.
Et pourtant, on le voit bien depuis le début de cette émission, il y a des rapprochements.
Oui, une aspiration à un monde meilleur et plus respectueux des hommes et de la nature, des solutions communes comme l'économie circulaire ou encore la démocratie directe. Mais l'anarchie qui, je cite, privilégie le ici et maintenant, se méfie des dogmes qui annoncent enfer au paradis, écrit l'auteur, qui souligne qu'il faut toujours avoir en tête que les deux idées ont deux points de départ très différents. L'écologie part de la nature et de la biologie, l'anarchisme du politique et de la question sociale. Il faut donc toujours garder cela en tête en examinant les ressemblances comme les dissemblances.
Et alors comment procède Philippe Pelletier ?
Alors il cerne d'abord chacune des idées avant d'analyser leur rapport à la science, leur lien à la nature. Il confronte leur vision de la nature humaine ou encore de la question démographique. Mais ce qui, selon Pelletier, les distingue le plus, c'est Thomas, bien sûr.
Eh bien bien sûr, la politique.
Oui, toujours la politique au sens large, précise l'auteur. Contrairement à l'anarchisme qui repose sur une critique de l'État, l'écologie ne dispose pas d'une théorie de l'État dont il doit chercher les éléments ailleurs, en mélangeant républicanisme libéral et social-démocratie. Sa seule spécificité consiste à dénoncer le gigantisme de l'État et pas son autoritarisme. Et question Thomas, anarchisme et écologie aujourd'hui, combien de divisions qui gagnent ?
Eh bien visiblement c'est l'écologie politique même.
Oui, mais l'auteur note qu'éco-alternatifs et anarchistes se retrouvent dans les luttes environnementales, depuis le Larzac jusqu'au ZAD, mais surtout l'anarchisme peut venir en aide à l'écologie. Comment ? Eh bien, l'auteur propose de réfléchir à une néo-mésologie.
Ça, c'est la science des milieux évoquée déjà par Élisée Reclus.
Exactement. Et comment instaurer cette néo-mésologie ? Réponse de Philippe Pelletier en conclusion du livre. Pour éviter les erreurs d'une écologie souvent discréditée par l'idéologie, il faut faire appel à la pensée libre promue par les anarchistes. On voit donc que les deux n'ont pas terminé de cheminer ensemble.
Et voilà, on rappelle le titre du livre de Philippe Pelletier.
Noir et vert aux éditions Le Cavalier Bleu.
Merci Aurélie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
retourne à Bordeaux retrouver Patrick Chastenet, philosophe et historien, auteur des Racines libertaires de l'écologie politique aux éditions de L'Échappée. Notre thème d'aujourd'hui, vous l'avez compris, l'anarchie et l'écologie. D'abord, pour relancer notre conversation avec Patrick Chastenet, une archive intéressante, Jacques Ellul, toujours en 1992, sur la question du progrès.
Tout le monde est convaincu que nous allons de progrès en progrès. En réalité, cette idée de progrès apparaît d'une part avec le développement des sciences, où effectivement on progresse d'une connaissance à une plus grande connaissance, le développement des techniques, où ce que l'on ne pouvait pas faire avant, on le fait maintenant, et d'autre part avec une idéologie romantique du 19e siècle, que l'histoire de l'homme est l'histoire du progrès des hommes. Or, je ne crois pas que le français du XXe siècle soit supérieur à l'athénien du Ve, avant Jésus-Christ. Il n'y a en réalité pas eu de progrès humain. Il y a des progrès dans notre entourage, des progrès dans nos moyens, mais ce qui est très curieux, c'est de voir qu'en définitive, on vit dans une société qui se conçoit comme une société de progrès indéfini. Si on admettait que une société peut être stationnaire et une société peut avoir acquis un statut d'équilibre, ce qui avait été l'idéal dans un certain nombre de sociétés historiques, de rechercher l'équilibre de la société et autant que possible ne pas le troubler, ne pas modifier cet équilibre. On aurait dans la société actuelle beaucoup plus de stabilité et beaucoup moins d'angoisse, que ce soit le domaine de la vitesse ou que ce soit le domaine de la multiplicité des connaissances. Le progrès dépasse les possibilités de l'homme. Plus on économise du temps grâce aux moyens techniques, moins on a du temps pour vivre. C'est une des plus grandes difficultés de notre société de savoir utiliser les techniques que l'on a sans en faire un moyen de création d'un monde dans lequel l'homme est submergé. Il va de soi dans cette société que tout progrès technique doit être appliqué et le technicien est au service de cette technique proliférante. C'est là que se situe le véritable pouvoir dans la mesure où chacun de nous y participe. Nous utilisons tous un bon nombre d'outils techniques, sans même nous en rendre compte. L'homme moderne devient de moins en moins capable de faire un effort par lui-même, devient de moins en moins capable de penser par lui-même avec un certain esprit critique. On me dira que dans toutes les sociétés, il y a eu des conformismes sociaux du même genre, de type religieux par exemple, ça c'est tout à fait exact, mais de même que dans ces sociétés, j'aurais combattu ces conformismes sociaux pour que l'homme prenne ses décisions lui-même, de même dans notre société, j'essaye de voir ce qui détermine l'homme et comment l'amener à s'assumer en tant qu'homme personnel, unique, personne unique dans le monde.
Patrick Chastenet, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, il y a quand même des choses étonnantes sur lesquelles j'aimerais vous entendre. À un moment, il dit, Jacques Ellul dit, il n'y a pas de progrès humain. Il compare les hommes contemporains d'aujourd'hui avec l'Antiquité. Il ne croit pas que l'humanité progresse.
C'est-à-dire que c'est à l'aune de la liberté. Et alors, il pousse le paradoxe, parce qu'il y a toujours ce côté provocateur, mais il dit en effet qu'un esclave à Rome était finalement plus libre, oui, qu'un prolétaire au 19e. Mais on oublie cet exemple, qui nous amènerait peut-être loin. Ce qui veut dire, c'est que ce qui a progressé, c'est le bonheur matériel. Et qu'en effet, dans nos sociétés, mais là, il parle des sociétés occidentales, oui, en effet, on peut comparer, on va comparer à l'avantage de ce type de société. Si on choisit maintenant comme critère la liberté, et il trouve justement que nos progrès techniques, à un moment donné, il y a un effet de seuil. C'est-à-dire qu'il n'est évidemment pas contre le progrès, c'est pas le technophobe décrit par ses adversaires, mais ce qui est fondamental chez lui, c'est l'idée d'ambivalence. Tout progrès technique se paie, et ce qu'on perd est parfois plus important que ce qu'on gagne.
Ah, mais il dit quand même, dans ce qu'on vient d'entendre, il parle d'une société stationnaire, comme si une société stationnaire pourrait être plus avantageuse, plus vivable qu'une société qui progresse technologiquement.
Alors il y a des sociétés justement qui ont renoncé à certaines inventions, certaines découvertes techniques, parce que justement elles ont considéré qu'elles seraient, elles leur seraient, en tout cas aux membres, préjudiciables. Je crois que de ce point de vue-là, Ulule, il n'est pas différent de quelqu'un aussi qui me semble moi très pertinent, qui est George Orwell, et qui disait toujours, en tout cas il l'écrit, quand on demande est-ce que un progrès technique constitue un véritable progrès, la question de savoir c'est est-ce qu'il nous rend plus ou moins humains. Et en effet, je crois que Ellul, ce qui est central chez lui, c'est de s'opposer à ce qu'il avait appelé la loi de Gabor, qui consiste à dire que tout ce qui peut se faire techniquement va se faire, doit se faire. Hein. Et en effet, des progrès qu'on doit mettre de côté, parce que de toute façon, ils seront préjudiciables. L'idée de société stationnaire, là, me semble pas en effet réaliste. En revanche, il y a peut-être l'idée que, en termes de croissance, mais sous toutes ses formes, on peut chercher un équilibre. Et au-delà duquel, donc effectivement avoir un sens de la limite, mais qui se discute, je dirais, collectivement. C'est-à-dire que ce sont des choix, évidemment, la question de qui va fixer les besoins. Si ces besoins sont fixés de façon autoritaire d'en haut, on tombe dans l'écofascisme. Si, et ce qui suppose d'ailleurs au passage que chez Ellul, comme d'ailleurs l'ensemble des anarchistes écologistes dont je parle, il y a quand même toujours cette idée qu'on retrouve, qui était vraiment très développée chez Bookchin, qui l'est chez Ellul et chez Charbonneau, c'est de dire qu'il faut arriver à ce que nos sociétés aient une taille relativement modeste. C'est-à-dire que ça part toujours de la base. Ces idées sont applicables quand même pour des villes de taille raisonnable.
Oui, c'est ce qu'on appelle le communalisme. On fera une émission d'enquête de politique un jour sur le communalisme, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait de dire qu'il n'y a pas de progrès humain? Il constate qu'il n'y a pas de progrès humain individuel. L'homme n'est pas meilleur au fil des siècles. Et en même temps, d'en appeler à une société où on serait assez responsable pour se dire, bah ça, on n'en a pas besoin. Ce plaisir-là, ce confort-là, il est plus nuisible pour la société qu'utile pour les individus. Est-ce qu'on peut se dire ça sans en même temps penser qu'individuellement, on doit progresser?
Alors, une fois encore, là, je pense que ce qui est central, c'est la question de liberté. Dire ce qui progresse, c'est la connaissance, ce qui progresse, c'est notre emprise sur le monde. Mais si, une fois encore, si on se rapporte à la liberté, Ellul ne croit pas, d'ailleurs, qu'il y existe une nature humaine. Pour lui, il n'y a absolument pas de nature humaine. Et en même temps, s'il devait définir ce qui constitue l'humain, eh bien, il dirait que l'humain, c'est justement celui... Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile à le réduire, parce qu'il y a toujours une dimension dialectique dans sa pensée, mais on la retrouve aussi chez Reclus, comme on l'a retrouvé chez La Boétie. Il y a sans doute du mauvais désir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, quand les individus sont constitués en masse, chez certains, un désir de servir, et chez d'autres, un désir de commander. Si progrès il doit y avoir, c'est justement faire en sorte que, je dirais, ces mauvais désirs, si tant est qu'on puisse employer ces caractéristiques éthiques, soient réprimés. Et donc c'est un travail sur soi. L'obéissance, elle est pertinente à partir du moment où c'est un consentement qui n'est pas obtenu par la violence physique ou symbolique, c'est-à-dire par la propagande. Donc de ce point de vue-là, oui. On peut obéir parce qu'on l'a décidé, parce qu'on le consent. Mais en effet, je trouve que être capable, comme nous le recommande Ellul, de commencer par dire non à tout ce qui nous trompe, tout ce qui nous aliène. Et en effet, je dirais que tous les ordres de l'État ne sont pas légitimes parce qu'ils émanent de l'État. On a un devoir de réflexion critique. Et même chose, tous les ordres, pour tous ceux qui travaillent dans les institutions, qui se retrouvent dans des situations historiques extrêmes, on doit désobéir pour des considérations qui sont des considérations sur lesquelles on ne peut pas revenir. Hein. On doit désobéir à des ordres iniques. C'est un devoir même pour un anarchiste. Et c'est, au passage, c'était aussi un devoir pour un chrétien et pour un anarchiste chrétien.
Oui, parce que la spécificité de Jacques Ellul, c'est pas ni Dieu ni maître.
C'est-à-dire que c'est, avec Ellul, c'est avec Dieu, sans maître. Et c'est ce qui le différencie des autres, de tous les, enfin, une grande partie des anarchistes, c'est que pour lui, il y a quand même Dieu qui est là, même si on le voit.
Il est protestant.
Alors, là aussi, oui, il est protestant dans tous les.
Pratiquant.
Dans tous les sens du terme. Oh là là, oui, totalement pratiquant, engagé dans son église. Il a voulu d'ailleurs la réformer. Il a voulu réformer la réforme, sans mauvais jeu de mots. Et il en est ressorti d'ailleurs assez, je crois, assez meurtri de ce combat qu'il a tenté. Mais il y a quand même toujours aussi, chez tous d'ailleurs ses auteurs, cette idée du petit troupeau, hein, cette métaphore du petit troupeau, qui est une métaphore extrêmement chrétienne qui nous vient des évangiles, où justement il y a, alors c'est certainement pas l'avant-garde révolutionnaire du parti marxiste-léniniste, mais c'est un petit nombre d'individus, c'est très compatible avec l'autre Aquitain célèbre, la Boétie, ceux qui s'entreconnaissent et qui justement s'apprécient à leur goût, leur désir de la liberté, de l'amour de la liberté.
Et alors, ce qui est très étonnant quand on écoute Jacques Ellul, comme on vient de le faire, c'est de se rappeler qu'il parle avant notre conscience du réchauffement climatique et avant le monde d'Internet et des réseaux sociaux.
Oui, de ce point de vue-là, il est très, très clairvoyant parce que il anticipe vraiment la destruction de tout ce qui peut être notre environnement immédiat. Il a vraiment des textes prophétiques. Quand il, justement, aborde cette question de la crise écologique, au passage, il retourne un argumentaire qui est très présent, d'ailleurs, chez les historiens de l'environnement, rendant le christianisme responsable de la crise écologique. Puisque lui, justement, il retourne l'argument en disant que c'est pas parce que, justement, nous avons respecté les croyances divines, c'est précisément parce que nous désobéissons à Dieu que, justement, Dieu laisse faire. Et le jardin qu'on devrait conserver, eh bien, on le détruit, on pille les océans, on pollue les sols et on exploite la nature à outrance.
Mais alors, vous comprenez bien, Patrick Chastenet, que dans tout ce qu'on vient de se dire, dans tout ce qu'on vient d'entendre, il y a aussi un potentiel fasciste, presque. Parce que on est en train de se dire qu'il faut réguler les désirs, il faut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Ça peut conduire à une société hyper moraliste.
Alors ça serait le contresens vraiment le plus radical que de voir chez Reclus, chez Ellul, chez Charbonneau, justement des munitions pour une société fasciste. Chez eux, au contraire, il y a même explicitement, on le retrouve d'ailleurs dans le Feu vert de Charbonneau, la description de ce qui pourrait advenir si justement il n'y a pas une prise de conscience, une action par le bas, par des petits groupes qui sont en réseau pour modifier ici et maintenant nos comportements, puisque ce qu'ils craignent, c'est la mise en place d'une sorte de gouvernance technocratique qui va se servir en disant, il y a même les mots très précis de Bernard Charbonneau, en disant que l'écologie est l'idéologie toute désignée pour constituer un écofascisme au nom justement bien d'un rationnement autoritaire, que sais-je, de l'air, de l'eau, des ressources, de l'énergie. Non seulement ils ne sont pas les chantres justement de cet écofascisme, mais c'est ce qui les inquiète, c'est ce qui les mobilise dès le milieu des années 30, c'est-à-dire dès la constitution de ce que on peut considérer comme un mouvement, une sorte de vague verte à la toute fin des années 60. Et ils sont mobilisés parce que justement ils sont extrêmement conscients de ce qui pourrait un jour justement prendre la forme d'un écofascisme. Et il n'y a pas chez eux, et encore moins chez Ellul aussi, l'idée d'une morale. C'est-à-dire que justement c'est pas pour rien aussi qu'il est protestant et qu'ils ont toujours ce côté singulier de minoritaire. Il ne s'agit pas de constituer des théocraties, une grande méfiance à l'égard de la religion. C'est la foi, ce n'est pas de la, je dirais, du christianisme sociologique. De tout temps, ils ont voulu se reconnaître par une modification de style de vie, sans drapeau, sans uniforme.
Par l'exemple, c'est-à-dire montrer aux autres qu'on peut vivre mieux, différemment, c'est ça ?
Ah, c'est central chez eux, l'idée d'une contagion mimétique du bien. On retrouve ça chez Reclus, on retrouve ça chez Ellul, on retrouve ça chez Charbonneau. Mais en tout cas, c'est ici et maintenant. Et
donc, il croit quand même en l'homme, parce que si je vous répète la phrase qu'on a entendue tout à l'heure, il n'y a pas eu de progrès, l'homme n'a pas progressé. On peut quand même considérer qu'ils croient quand même en l'homme, en l'humanité, on va dire.
Oui, en l'humanité. Encore que à leur époque, ils disent vraiment l'homme sans se poser cette question, puisque c'est pour eux l'homme universel, hein, et avec l'autre moitié du ciel, comme on disait chez les Mao. Oui, il y a l'idée que de toute façon, l'homme, ce qu'il constitue, c'est le désir de liberté. Je dirais qu'ils n'auraient pas consacré leur vie entière à s'ils ne croyaient pas que ce combat, il fallait le mener. Ils disent toujours que c'est difficile.
L'harmonie entre l'homme et la nature dépend essentiellement de l'harmonie entre les hommes.
Murray Bookchin.
Et l'attitude que nous avons vis-à-vis de la nature est toujours en rapport avec l'attitude que nous avons les uns envers les autres.
Patrick Chastenet, je ne vais pas vous demander de faire parler les morts, mais que direz-vous, vos cinq héros, Illich, Reclus, Charbonneau, Bookchin et Ellul, des partis écologistes aujourd'hui et des programmes des écologistes aujourd'hui qui s'inscrivent dans les institutions européennes, les institutions nationales, municipales, régionales, toutes les institutions.
Je crois qu'ils leur reprocheraient d'entretenir un système qu'il faut changer par d'autres voies. Je pense que pour eux, au plan local, le jugement serait certainement différent. Mais quand il s'agit d'être dans des structures comme le Parlement européen ou même jouer la carte présidentielle, c'est vraiment pour eux se tromper de combat, c'est une illusion dans tous les sens du terme. C'est pas seulement inutile, c'est néfaste, parce que justement c'est amener l'écologie sur le terrain des partis. Et à partir du moment où on l'amène sur le terrain du parti, on n'est pas plus fort que les autres, on prétend faire de la politique autrement. Dans le meilleur des cas, on fait aussi bien ou aussi mal, ça dépend de quel point de vue on se place. Et on a ce qu'on a connu, c'est-à-dire de tout ce qui peut être de regrettable justement dans l'activité partisane, les phénomènes de domination. Et je crois qu'il est inutile de développer. C'est la mauvaise voie. C'est-à-dire qu'autant la démarche des comités ad hoc qui vont disparaître une fois la bataille gagnée ou perdue est la bonne voie, autant le combat associatif de tous les jours dans toute une série d'associations de défense hein, est pertinent, autant l'engagement sur ces parties-là, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont ou anarchistes déclarés ou en tout cas en sympathie avec la démarche anarchiste pour aller s'engager dans un parti, fût-il d'ailleurs un parti écologiste.
C'était les liens entre l'anarchie et l'écologie pour comprendre ce qui se passe aussi en matière d'écologie en dehors des partis et du jeu institutionnel classique. La politique, ça se fait, ça se vit souvent ailleurs, sous les radars des grands médias qui consacrent une bonne part de leur couverture de la vie politique en suivant l'Assemblée, l'activité du gouvernement, des partis, la course au pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mais la politique, c'est aussi des expériences de collectivité ou d'individus organisés, des initiatives en marge, et c'est peut-être d'ailleurs là que s'inventent certaines solutions de demain. C'est ce que l'on a pu mesurer pendant tout ce mois de janvier en quête d'anarchie. Retrouvez la série des 4 enquêtes d'anarchie sur le site de France Inter ou par podcast. Et n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.